France Culture.
Tur, question du soir. Quentin l'a fait.
Dans son dernier rapport d'activité qui est apparu fin août, le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides annonce avoir reçu 958 demandes en 2024, soit une hausse de 43% en un an. Cette augmentation illustre l'ampleur des inquiétudes sociales, sanitaires et écologiques liées aux pesticides et l'impact sur les corps des agriculteurs. Pendant ce temps, la justice a condamné l'État pour ses procédures d'autorisation jugées défaillantes, alors reconnaissance des victimes, contradiction des politiques publiques, dépendance persistante de notre agriculture. C'est toute une société qui se retrouve face à ses responsabilités. Et une question ce soir, comment indemniser les victimes de pesticides? Pour nous éclairer, un invité, Jean-Noël Jouzel, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po Paris. Vous avez fait paraître avec Giovanni Prete l'ouvrage intitulé « L'agriculture empoisonnée, le long combat des victimes des pesticides », un ouvrage qui est paru en janvier dernier aux presses de Sciences Po. Merci d'être présent ce soir dans Question du soir.
Sur les céréales, bah, c'était tous les désherbements, traitement de semences. On n'avait pas de cabine sur les tracteurs, pas de protection, on n'avait rien. Et un geste bouché, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais enfin bon, on faisait tout ça. On n'avait pas regardé les têtes de mort qu'il y avait sur les bidons. Hein.
Personne ne nous en parle. Notre sécurité sociale agricole, elle est très silencieuse, très discrète là-dessus.
Quand le chirurgien me l'a annoncé, il m'a dit faut qu'on c'est un cancer, tout ça. Donc, sur le coup, il me dit en sortant, j'ai vu dans sa porte de bureau, il me fait ça n'a pas l'air d'aller, M. Cocard. Ben, j'ai dit non, du cancer de la prostate, moi j'ai un copain qui en est mort. Hein.
Deux agriculteurs, des propos recueillis par France 3 Bourgogne en février 2025, et ce fonds, l'existence de ce fonds, Jean-Noël Jouzel, qui voit les demandes d'aide, d'indemnisation, d'accompagnement exploser. Comment est-ce qu'on l'explique? C'est parce que les maladies se multiplient ou simplement parce que ce fonds fait son travail?
On l'explique d'abord parce que effectivement il y a des maladies. Alors c'est connu. C'est connu, j'allais dire, de toute éternité, au moins depuis l'Antiquité grecque, que les pesticides qu'on utilise depuis très longtemps, en fait, hein, c'est des produits naturels au départ, et maintenant c'est des produits de synthèse, mais ça fait longtemps qu'on les utilise, et évidemment, ils sont dangereux pour la santé, parce qu'ils visent à endommager des organismes vivants, des champignons, des mauvaises herbes, des insectes. Donc ça fait longtemps qu'on sait qu'il peut y avoir des effets indésirables pour la santé des humains exposés, et les plus exposés d'entre eux, c'est les agriculteurs. En revanche, ça fait depuis moins longtemps, ça fait depuis une trentaine d'années, que des études épidémiologiques ont montré qu'il y avait une élévation du niveau de risque d'avoir certaines pathologies chroniques, type maladie de Parkinson, cancer de la prostate dont parlait un des agriculteurs qu'on vient d'écouter, ou cancer du sang. Et c'est ces données épidémiologiques qui ont donné lieu à l'adoption, d'abord dans un premier temps, dans les années 2010, de tableaux de maladies professionnelles réservés aux exploitants et aux salariés agricoles. Sur la maladie de Parkinson, sur les cancers du sang, puis sur les cancers de la prostate, et dans un deuxième temps, en 2020, qui ont permis l'adoption de ce fonds. Donc l'augmentation des demandes, elle est le fait qu'elle est le produit du fait qu'il y a des maladies. Elle est aussi le produit du fait que le fonds est de mieux en mieux connu. Il n'y a pas eu énormément de communication, en tout cas au départ, de la mutualité sociale agricole, comme le disait un autre agriculteur qu'on entendait à l'instant, autour de ce fonds. Mais néanmoins, l'information circule par le biais de la couverture médiatique, mais aussi parce que certains médecins sont de plus en plus au courant. Et donc ça permet l'augmentation du nombre de dossiers déposés et mécaniquement l'augmentation du nombre d'indemnisations reçues.
Donc c'est bien de parler de ce fonds, c'est d'utilité publique. Jean-Noël Jouzel, vous avez évoqué les maladies, il faut donner quelques chiffres. Parmi les demandes auprès du fonds, les demandes d'indemnisation, la maladie de Parkinson, c'est 17% des demandes, le cancer de la prostate, 50%, les cancers du sang et du système lymphatique, 20%. Comment est-ce que ces gens, ces agriculteurs en majorité, peuvent prouver le lien entre la maladie qui les traverse, qui les frappe, et les pesticides qu'ils ont utilisés durant une grande partie de leur vie professionnelle?
Concernant ces trois types de pathologies, en général, ils n'ont pas à le démontrer. C'est le principe même des tableaux de maladies professionnelles sur lesquels repose l'essentiel des indemnisations reçues par le biais du fonds. Un tableau de maladies professionnelles, ça vient connecter un type de pathologie avec un type d'exposition professionnelle. Et donc, depuis 10 à 15 ans, des tableaux existent qui disent que si vous êtes agriculteur, vous avez été exposé aux pesticides, si vous avez une maladie de Parkinson, vous avez automatiquement droit à une réparation. Pareil pour les cancers du sang, puis plus tardivement pour le cancer de la prostate. Ça ne veut pas dire que toutes les maladies de Parkinson qui affectent les agriculteurs sont provoquées par leur exposition aux pesticides. En fait, on n'en sait rien. Mais ça veut dire qu'il y a, le législateur a trouvé, a considéré qu'il y avait suffisamment de données scientifiques, épidémiologiques en l'occurrence, pour appliquer un principe de présomption. Après, quand on rentre pas dans les cases du tableau, qu'on n'a pas tout à fait la, qu'on n'a pas les bonnes expositions, ou qu'on a dépassé le délai de prise en charge maximum qui peut s'écouler entre le moment de l'exposition et le moment de la maladie, alors là, il faut passer par une procédure complémentaire qui peut être plus compliqué. Et c'est encore plus compliqué quand on a une maladie qui n'est pas dans un des tableaux. Et en fait, ces chiffres que vous donnez là, ils sont le reflet des tableaux existants. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que ces 950 à peu près demandes qui sont déposées sont le reflet exact des maladies qui ont affecté les agriculteurs en 2024. Il y a notamment des maladies dont on sait qu'elles ont une présomption forte de lien avec l'exposition professionnelle aux pesticides. Par exemple, la BPCO, c'est une maladie pulmonaire, qui ne fait pas l'objet d'un tableau de maladies professionnelles et pour lesquelles il y a très peu de reconnaissance.
Ce qui frappe par ailleurs, et ce qu'un article du Monde raconte bien, c'est que les exploitants agricoles vont trouver le fond bien plus souvent que les salariés agricoles ou les saisonniers qui utilisent pourtant beaucoup plus de pesticides. Comment, là, on explique aussi, j'allais dire, la différence entre la nature des requérants ?
Alors, je dirais, c'est pas nécessairement le vrai que les salariés utilisent plus de pesticides que les exploitants, ni l'inverse. En fait, c'est pas très clair. Il y a plusieurs manières d'être exposé aux pesticides en agriculture, et puis il y a aussi plusieurs manières d'être exposé aux pesticides professionnellement hors agriculture. Les agriculteurs n'ont pas l'apanage des expositions aux pesticides. En revanche, c'est vrai qu'il y a davantage de demandes d'exploitants. Alors, c'est d'abord le reflet d'une structure de la main-d'œuvre. Il y a plus d'exploitants que de salariés en France. Historiquement, c'est très vrai. C'est en train de changer à grande vitesse. Mais ça reste le cas. Voilà, c'est une des premières raisons. Mais il y a aussi d'autres raisons qui tiennent au fait probablement que les exploitants ont plus de moyens, en moyenne, en général, d'avoir l'information relative à l'existence de ce fonds et aux droits qu'ils peuvent avoir à une indemnisation.
La source d'inspiration de ce fonds, c'est celui qui avait été mis sur pied s'agissant de l'amiante, notamment. Est-ce que c'est la source d'inspiration originelle de ce nouveau fonds d'indemnisation des victimes des pesticides ?
Oui, mais alors comme toujours, entre la science et la politique, il y a un long chemin, toujours tortueux, et qui va jamais de soi. Et donc, c'est pas... Bon, voilà, il y a une accumulation de données épidémiologiques qui montrent que l'exposition professionnelle aux pesticides augmente le risque d'avoir des pathologies. Ça, c'est pas automatiquement traduit dans un fond. Il a fallu d'abord qu'il y ait des mobilisations collectives, qu'il y ait des procès, qu'il y ait des cabinets d'avocats qui rentrent en branle pour obtenir auprès des parlementaires qu'un fonds soit créé. Le modèle qu'ils avaient en tête, c'était effectivement le FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui a été adopté 20 ans plus tôt, suite au scandale de l'amiante en France. Et c'est un modèle, si on juge le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides à l'aune de ce qu'est le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, on ne peut qu'être frappé par le fait que c'est une indemnisation beaucoup plus modeste qui est proposée par le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. C'est une indemnisation seulement forfaitaire, dans le langage de la sécurité sociale, ça veut dire partielle du préjudice subi, alors que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante propose une indemnisation intégrale du préjudice subi.
Alors, combien peut toucher, par exemple, un agriculteur qui est victime de la maladie de Parkinson ou d'un autre cancer lymphatique ou du sang?
C'est très très variable en fonction de ce qui est estimé comme le degré d'atteinte à sa capacité de travailler. En fait, historiquement, le schéma qui préside aux décisions d'indemnisation des maladies du travail en général, c'est l'idée qu'elles provoquent un manque à gagner, donc une perte fonctionnelle, et c'est ça qui est indemnisé. Et donc ça peut être très variable, mais ça va pas être des sommes colossales. On n'est pas aux États-Unis dans le cadre de procès qui peuvent déboucher sur des millions d'indemnisations. Là, c'est pas du tout ces sommes-là. Ce fonds, il permet donc d'indemniser une partie du préjudice subi, alors que les victimes de l'amiante ont une indemnisation supérieure. Ça traduit le fait que on est dans deux situations politiques très différentes. Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, il fait suite à un scandale majeur dans les années 90 qui a mis en évidence la faillite complète des services de l'État en matière de protection des travailleurs exposés à l'amiante, un produit notoirement cancérogène qu'on a continué d'utiliser en dépit de données scientifiques accablantes, et qu'on a interdit en 97, 3 ans avant de créer ce fonds. Le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, c'est assez différent. Il reconnaît une gestion lacunaire de cette problématique de la part de l'État, c'est certain. Mais en même temps, l'État continue à autoriser des pesticides. C'est des produits qui sont pas, c'est une technologie qui n'a pas été interdite en tant que telle, même s'il y a régulièrement des produits qui sont retirés du marché. Mais il y a toujours des pesticides. Et donc, le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, il est le produit de cette ambiguïté un peu structurelle.
Alors, il faut nous expliquer, justement, Jean-Noël Jouzel, qu'est-ce qui conduit l'État à autoriser la mise sur le marché d'un pesticide? Sur quoi font-ils cette décision? Quel est le parcours également de cette décision?
Eh ben, c'est une décision qui repose également sur la science, mais pas sur le même type de données que ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les données épidémiologiques qui montrent que les agriculteurs ont plus de pathologies du fait de leur exposition aux pesticides. Ça repose, l'autorisation de mise sur le marché repose sur une évaluation des risques, a priori, donc avant la mise sur le marché, qui elle-même repose essentiellement sur des tests de toxicité réalisés sur le rat et la souris et dont les résultats sont extrapolés à l'homme. Et donc, c'est pesticide par pesticide, molécule par molécule, que cette évaluation du risque procède.
Donc, pardonnez-moi, pour bien comprendre, on autorise la mise sur le marché de produits que l'on n'a par construction jamais éprouvé auprès de corps humains, auprès de l'être humain en général.
Oui, c'est tout à fait l'idée, et on se repose sur ces modèles animaux. L'extrapolation qu'on fait pour appliquer les doses d'exposition sans effet qu'on a détectées sur les animaux à l'homme repose sur un principe théoriquement prudentiel qui est une division par 100. Bon, c'est un peu de la tambouille toxicologique, mais c'est censé être une garantie de précaution. Mais en fait, on n'a jamais la certitude que cette valeur limite d'exposition pour les travailleurs agricoles va être absolument protectrice. Et d'ailleurs, les données épidémiologiques qui s'accumulent depuis 30 ans montrent bien qu'il y a eu des trous dans la raquette de l'évaluation des risques et que des produits ont été mis sur le marché qui manifestement ont eu des effets indésirables bien plus que ce qui avait été imaginé, anticipé et évalué lors de l'autorisation de mise sur le marché.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe structurel, Jean-Noël Jouzel, entre le processus que vous nous décrivez là, cet état justement qui autorise la mise sur le marché d'un produit et ce même État qui va indemniser les victimes de produits? Donc, vous voyez exactement la contradiction.
Bien sûr, il y a quelque chose de très ambigu, mais ça correspond à la différence de nature entre ces deux grandes catégories de données. Les tests de toxicologie sur le rat et la souris, ils nous donnent des indications substance par substance. On nous dit tel pesticide peut être mis sur le marché parce que dans les conditions dans lesquelles il va être utilisé, certes, il est dangereux, il a des effets toxiques, c'est pour ça qu'on l'utilise, mais ces effets vont pas être avérés sur l'être humain parce que les niveaux d'exposition vont rester acceptables. Les données épidémiologiques, elles procèdent à l'inverse, de manière très très macroscopique, et elles nous disent que l'exposition des agriculteurs aux pesticides en général élève leur risque d'avoir des pathologies chroniques. Mais elles nous permettent que rarement de dire c'est telle ou telle famille de pesticides, et encore plus rarement de dire c'est tel ou tel pesticide qui est à l'origine de cette élévation du niveau de risque. Et donc quelque part entre les deux, il y a un angle mort qui est là où se construit toute cette ambiguïté.
Il y a toujours par ailleurs un danger dont on parle peu. Lorsqu'on souhaite interdire un pesticide, on va très souvent, puisque l'agriculture en est dépendant, substituer ce pesticide par un autre. On va le remplacer, donc on va utiliser un produit peut-être qui se trouvera être plus dangereux après plusieurs années. Comment est-ce que vous abordez vous-même cette question de la substituabilité et de ces dangers potentiels?
Effectivement, la situation que vous évoquez peut arriver. Alors, je pense, moi, de manière générale, après, je suis pas agronome, hein, donc je suis modestement sociologue, donc je pense que de manière générale, les produits les plus dangereux sont plutôt moins utilisés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient par le passé.
Et que l'histoire va dans le bon sens.
C'est pas si simple que ça. L'histoire va dans le bon sens si on veut, mais ça ne suffit pas. Si on la laisse aller comme ça, on va continuer à avoir de gros problèmes. En réalité, tant qu'on réfléchit à la substituabilité terme à terme, on reste dans un modèle agricole qui est un modèle qui va dépendre massivement de la chimie. C'est celui dans lequel on vit, hein. On est vraiment une agriculture qui ne peut pas se passer de chimie. Et on le voit, hein, parce que les plans de réduction de l'utilisation des pesticides se succèdent en France depuis bientôt 20 ans et ne parviennent pas à des résultats tangibles. On a une agriculture qui est toujours hyper dépendante des pesticides. Tant qu'on réfléchit terme à terme, qu'on se dit une substance est dangereuse, on l'interdit, d'accord, mais parce qu'on a un substitut qui permet de le remplacer, en fait, on change pas du tout le modèle agricole. Les controverses qui ont entouré la loi du plomb autour de cette molécule néonicotinoïde, l'acétamipride, montre bien que on avait une filière, la filière betterave, qui clamait à cor et à cri que c'est un produit dont il ne pouvait pas se passer. On avait des chercheurs en agronomie qui disaient « si, c'est possible ». Par contre, il n'y a pas de produit miracle. Si on veut le remplacer, il va falloir toute une gamme de techniques qui changent la manière de produire et qui, in fine, si on réfléchit à une échelle plus globale, changent sans doute aussi la manière qu'on va avoir, nous, en tant que consommateurs, de manger.
La voix d'autres agriculteurs qui évoquent le déni de l'ancienne génération à laquelle ils appartiennent.
J'ai fait des réunions dans mon secteur. Il y a un agriculteur qui aujourd'hui a eu des soucis de santé. Et quand je suis allé l'inviter à la réunion, moi je suis pas malade, ça le touchait pas quoi, donc ça l'intéressait pas. Donc aujourd'hui, malheureusement, il a eu son problème, donc il a tourné sa veste, mais c'est dommage d'attendre d'être malade quoi. Personne nous avait dit que c'était dangereux. À l'école, on m'avait dit plus on met d'engrais, plus les rendements sont bons, plus on met de pesticides, plus les rendements sont bons. Donc on travaillait dans cette optique-là quoi.
Une réaction, Jean-Noël Jouzel, à ces propos. Et au-delà, est-ce que l'une des avancées que représente ce fonds, c'est aussi donner une visibilité à ces victimes, ou du moins une reconnaissance partielle de la part de l'État ?
Oui, je dirais visibilité et même légitimité, parce qu'on entend bien là dans le témoignage qui vient de passer à l'antenne que, et on l'a vu dans nos enquêtes avec Giovanni Prete, hein, pour les agriculteurs qui ont une pathologie qui est susceptible d'être lié à leur exposition aux pesticides, d'abord, c'est pas du tout évident de faire le lien. Ça va pas de soi. Il faut souvent que des tiers, ça peut être un proche, ça peut être un médecin, mais les médecins sont loin d'être tous bien formés sur ces questions-là de facteurs de risque environnementaux et professionnels. Enfin, il faut que quelqu'un le mette sur la piste. La connexion se fait pas toute seule entre la cause et la conséquence. Mais quand bien même elle est faite, ça se traduit pas automatiquement par des dépôts de demandes d'indemnisation auprès d'un fonds comme le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, parce que pour les agriculteurs qui se considèrent comme malades des pesticides, c'est pas la même chose de se considérer comme malade et de se considérer comme victime d'une injustice. En fait, leur premier réflexe, c'est bien souvent de considérer qu'ils sont victimes d'eux-mêmes, parce qu'ils se sont pas bien protégés. Ils n'ont pas porté leurs gants, ils n'ont pas porté leur combinaison, et souvent c'est le cas. Après, quand on regarde dans les faits, c'est
ils disent de même qu'ils sont responsables des maladies qui les frappent.
Ça nous est arrivé de recueillir ce genre de témoignages en enquête, mais en réalité, les travaux sur l'exposition des agriculteurs aux pesticides, notamment les travaux d'ergonomie, montrent à quel point c'est pas du tout évident de se protéger correctement, de faire exactement comme il faudrait faire si on appliquait à la lettre les préconisations qui sont portées sur l'étiquette des produits. Donc ça va pas du tout de soi, mais ça va pas de soi pour les agriculteurs de se considérer comme victimes aux yeux du droit du travail. Ce sont donc pour la plupart des exploitants, ils sont responsables de leurs conditions de travail, ils sont responsables des conditions de travail de leurs éventuels salariés, et donc tout les porte à penser que c'est eux les responsables. Un fonds comme ça, il vient quand même attester l'idée que être malade des pesticides, c'est bien être victime de quelque chose. Le terme est dans l'appellation du fonds. Donc c'est un fonds qui a une portée substantielle limitée, mais une portée symbolique importante.
À quel point, parce que c'est ce qu'on voit, ce qu'on lit beaucoup dans le champ médiatique, à quel point les agriculteurs défendent-ils effectivement le recours et l'utilisation aux pesticides, donc à ces produits qui les tuent ou qui les rendent malades en partie?
Bah oui, c'est tout un paradoxe qui a fait un peu le sel des enquêtes qu'on a conduites à ce sujet, parce que c'est vrai que c'est un peu énigmatique. Comment on peut défendre des produits dont la science montre de plus en plus clairement qu'ils sont dangereux pour la santé des agriculteurs?
Est-ce que c'est une préférence pour le court terme parce qu'il faut bien vivre de son travail et au fond parce que le système agricole est dépendant pour l'instant de ces produits?
Il y a clairement de ça. C'est peut-être pas toute l'explication, mais c'est une partie. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans une situation de trade-off, en fait, entre d'un côté un risque à très court terme, qui est celui d'avoir une mauvaise récolte. Parce que les pesticides ont participé à énormément augmenter les rendements d'une agriculture comme l'agriculture française. Mais ils servent pas qu'à ça. Ils servent pas seulement à augmenter les rendements, ils servent aussi à de garanties. Par rapport à des agriculteurs bio, ceux qui sont conventionnels, c'est-à-dire ceux qui utilisent toute l'arsenal de la chimie comme pesticide, ils ont un moindre aléa vis-à-vis du risque de pas avoir de récolte. Et donc il y a forcément un échange un peu implicite entre un risque à très court terme, celui d'avoir une mauvaise récolte pour l'année en cours, et un risque à beaucoup plus long terme, parce que les maladies dont on parle, notamment les cancers de la prostate ou les cancers du sang, c'est des maladies à temps de latence long. Ça veut dire qu'entre le moment où on est exposé et le moment où on développe la maladie, il peut s'écouler 10 ans, 20 ans, 30 ans ou davantage. Et donc on le sait bien, c'est humain, le calcul peut être assez vite fait. On va privilégier d'éviter un risque à court terme, quitte à peut-être en prendre un, mais à beaucoup plus long terme.
Qu'est-ce que l'on doit aux associations, au monde associatif, justement, dans ces avancées, dans la reconnaissance aujourd'hui qui est faite par l'État, en partie à ces agriculteurs victimes de pesticides ?
On leur doit beaucoup, parce que sans mobilisation, il n'y a pas de fonds, c'est très clair. Donc, les mobilisations en question, c'est celles d'abord d'agriculteurs. En 2012, en 2011, se créait, donc il y a bientôt 15 ans, se créait la première association d'agriculteurs victimes des pesticides, qui existe toujours, Phytovictimes, s'en est créée ensuite une autre.
C'est tard tout de même.
Alors c'est tard au regard de l'histoire longue de l'utilisation des pesticides en France. Et c'est vrai que pendant des décennies, ces produits toxiques ont été utilisés sans susciter de mobilisation collective. Il y a pu y avoir ça et là des réactions, des inquiétudes, mais pas de mobilisation collective. C'est lié au fait que d'abord, pendant très longtemps, on ne voyait pas les maladies chroniques liées aux pesticides, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de données épidémiologiques qui démontraient leur existence. C'est lié aussi aux évolutions du droit. Ce n'est que depuis 2001 que les agriculteurs exploitants ont le droit à l'indemnisation de leurs accidents du travail et de leurs maladies professionnelles. Donc c'est à partir de là qu'a pu s'enclencher une dynamique de quête d'indemnisation qui avant n'avait pas de sens juridique. Et donc ces mobilisations collectives, elles ont joué un rôle essentiel pour faire exister le problème, alerter les pouvoirs publics et obtenir la création d'un fonds qui, si limité soit-il, a encore une fois une portée symbolique importante.
Dans ce cadre-là, Jean-Noël Jouzel, comment est-ce que vous analysez le succès de la pétition contre la loi Duplomb qui a engrangé cet été 2,1 millions de signatures? Est-ce que c'est la prise de conscience tardive, là encore, de l'opinion publique?
Alors, tardive, je sais pas, parce que ça fait longtemps hein, qu'il y a des alertes qui sont parfois bien relayées autour de la dangerosité des pesticides. Là, on parle de la santé des agriculteurs, mais on peut penser à la santé des riverains, à celle des consommateurs, à celle des buveurs d'eau. Et on peut penser, évidemment, aux enjeux de la biodiversité, parce que les pesticides ont aussi des effets délétères sur la faune et la flore qui environnent les champs. La prise de conscience dont témoigne le succès de cette pétition contre la loi Duplomb, je pense qu'elle est aussi le fruit d'une séquence politique qui s'étend depuis maintenant 2 ans, qui a vu des mouvements d'agriculteurs, principalement les plus gros syndicats, c'est-à-dire la FNSEA et la coordination rurale, exiger à corps et à cri une simplification du travail agricole, pour reprendre la terminologie de la loi Duplomb, mais surtout un allègement des contraintes qui pèsent sur l'accès aux pesticides. Et la loi Duplomb, son processus très très opaque d'adoption, je pense a abouti à générer beaucoup de frustration auprès de personnes qui sont pas forcément hyper politisées, mais qui ont ce souci pour une meilleure agriculture, une alimentation plus saine, et qui là ont, je pense, le sentiment qu'un débat sur l'agriculture et l'alimentation était en train d'être confisqué.
Début du mois de septembre, au début de ce mois de septembre, c'est l'autre actualité, la France a été condamnée pour la première fois par la justice à revoir l'ensemble de ses procédures d'autorisation des pesticides. Une victoire pour les défenseurs de la nature après 4 ans de bataille dans l'affaire dite Justice pour le vivant. On a parlé de ces autorisations de mise sur le marché, mais qu'est-ce que représente cette décision de justice?
Elle représente l'affirmation par une autorité judiciaire que l'évaluation des risques sur laquelle repose l'autorisation de mise sur le marché, elle est très faillible. Au cœur de la décision de justice se joue plutôt la question de la biodiversité, de l'impact sur le vivant, la faune et la flore, mais on pourrait faire des constats tout à fait similaires sur la manière dont l'évaluation des risques est faite pour les travailleurs de l'agriculture ou pour les riverains. Par exemple, pour les travailleurs de l'agriculture, cette évaluation des risques est mise très très fortement sur l'idée, sur l'hypothèse, que les vêtements de protection que peuvent revêtir les agriculteurs quand ils traitent, des gants, des combinaisons, sont très efficaces pour réduire leur contamination. Or, il y a des données qui montrent que c'est pour le moins sujet à caution et que c'est vraiment un pari très audacieux que de miser sur l'efficacité de ces vêtements de protection pour autoriser des produits. L'évaluation des risques des pesticides, elle s'est améliorée hein, au fil du temps. Elle n'est pas la même que ce qu'elle était il y a 50 ou 70 ans. Mais elle a encore du chemin à parcourir pour apporter des garanties plus solides de protection.
Vous évoquez le fait que ces tests épidémiologiques étaient conduits sur des animaux, notamment des rats. Mais est-ce qu'il serait possible de faire autrement? Comment, dans le fond, tester ces produits sur l'homme si l'homme ne peut pas les utiliser puisque, au fond, ces produits ne sont pas déjà sur le marché?
Et bah oui, on ne fait pas d'épidémiologie sur les humains avant la mise sur le marché d'un produit. Par définition, les données épidémiologiques, elles arrivent en retard. Les données toxicologiques, elles arrivent en avance. Et faut faire avec cette contradiction. Ça veut dire que, en réalité, la seule manière de s'en sortir, c'est sans doute d'être plus précautionneux. Plus précautionneux, ça veut dire de pas attendre d'avoir toutes les réponses à toutes les questions pour décider d'utiliser moins de pesticides et de moins y exposer la main-d'œuvre.
Merci beaucoup Jean-Noël Jouzel. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous signez avec Giovanni Prêt, L'agriculture empoisonnée, le long combat des victimes de pesticides, un ouvrage qui a paru en janvier 2024 aux presses de Sciences Po. Et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Roddy Ecken, Roxane Poulin, Bertie Bourdon, Anouk Milliot, c'était Margot Page à la réalisation et Minette Diawara à la technique ce soir.